Voici une légende à laquelle fait écho un temple qui a été élevé à la mémoire des rois Hong dans l'ancienne province de Futo sur la rive gauche du fleuve Rouge. Chaque année, au 10e jour du 3e mois lunaire, appelé le jour des ancêtres, on y célèbre une fête commémorative. Des dizaines de milliers de pèlerins s'y rendent de tous les coins du pays. Mais voici la légende. Il y a des millénaires, vivait au pays de l'Inam un chef de clan d'une force surhumaine nommé Loktuk, qui prit le titre de roi Kinduong. Doté d'un pouvoir magique, il pouvait aussi bien marcher sur l'eau que sur la terre ferme. Un jour, au cours d'une promenade sur le lac de Dongding, il rencontre Longnu, fille du roi Long Vuong, le dragon. De leur union naquit un fils qui reçut le nom de Songlam. En grandissant, Songlam se révéla d'une force herculéenne, soulevant comme fétu de paille un bloc de pierre que deux hommes ne parvenaient pas à enserrer de leurs bras. Songlam, qui avait également hérité des dons surnaturels de son père, lui succéda à la tête du pays sous le nom de Lac Long Kuan, le dragon, roi du pays des lacs. Le Linnam, à cette époque, ne connaissait encore ni l'ordre ni la paix. Le roi Lac Long résolut de parcourir son pays du sud au nord. C'est ainsi qu'un jour, dans les mers du sud, il rencontra un poisson d'une grosseur extraordinaire. Sa queue se dressait comme une voile immense. Il pouvait, d'une seule bouchée, engloutir plus de 10 hommes. Quand il nageait, il soulevait jusqu'au ciel des vagues qui risquaient de balayer des bateaux imprudents glissant dans les parages. Les pêcheurs avaient grand-peur du poisson démon. Ce dernier vivait dans une profonde caverne, communiquant avec le fond de la mer et s'ouvrant, au sommet, sur une chaîne de montagnes qui divisait en deux zones les pays riverains. Le roi Lac Long voulut débarrasser le peuple de ce fléau. Il se fit construire une solide embarcation et forger un bloc de fer au bord tranchant, chauffé à blanc. Puis, il fit voile vers la caserne du démon. Soulevant le bloc au-dessus de sa tête, il donna à la bête l'illusion de lui lancer un homme en guise de proie. Puis, dans l'énorme gueule ouverte, il projeta le métal brûlant. Fou de douleur, le monstre se dressa, cherchant à culbuter l'embarcation. Mais Lac Long, vif comme l'éclair, trancha de son épée le monstre en 3 tronçons. La tête se transforma aussitôt en chien de mer. Lac Long, arrachant des blocs à la rive, en fit une digue pour barrer la route à l'animal. Lui coupant la tête, il la jeta sur le mont qui dès lors porte le nom de Cao Dao Son, le mont de la tête du chien. Le tronc, emporté par le courant, aborda au pays de Mankan. Quant à la queue dépouillée de sa peau par Lac Long, elle enveloppe encore au milieu de la mer l'île de Bachangvi, queue du dragon blanc. La région, délivrée de son fléau marin, le roi Lac Long poursuivit sa route jusqu'à Longbian, une tâche l'y attendait encore. Au pied d'une montagne à l'ouest de la cité, dans une grotte obscure, se cachait un renard à 9 queues, âgé de plus de 1000 ans. Cet esprit maléfique empruntait souvent la forme humaine pour se mêler à la foule et enlever des jeunes filles qu'il violait dans son repaire. Toutes les familles de la région, qui s'étendent de Longbian au mont Tanvien, avaient hélas payer leur tribut à cet être ignoble. La population vivait dans une crainte permanente. Nombreux étaient ceux qui, abandonnant maisons, champs et jardins, avaient porté ailleurs leurs pénates. Une profonde pitié envahit le roi Lac Long, qui décida de purger la région de ce monstre. Seul avec son épée, il se dirigea vers l'entrée de la grotte. Dès qu'il l'aperçut, l'ennemi s'élança. Usant de son pouvoir magique, Lac Long appela à son aide vent, pluie, orage. Le combat dura 3 jours et 3 nuits. Affaibli, le monstre chercha à fuir, le roi le poursuivit et lui trancha la tête. Alors le monstre reprit sa forme initiale et ne resta plus au pied de l'Aqlon que le cadavre d'un renard à 9 queues. Entrant dans la grotte, le roi délivra les prisonniers, puis demanda aux puissances aquatiques de détruire ce lieu de malédiction. Le fleuve s'y déversa en chute torrentielle, ratissant la montagne, des tourbillons donnèrent naissance à un gouffre profond que les contemporains appelèrent mare du cadavre du renard et qu'on désigne actuellement du nom Tel Théo, lac de l'Ouest, autrement dit Hanoï. La population libérée réintégra les maisons, les champs furent de nouveau cultivés, la paix régnant désormais sur la région, l'Aqlon reprit le chemin des collines et des forêts. C'est ainsi qu'un jour il parvint à Fengshou. Dans la région s'élevait un vieil arbre appelé Tiangdan, qui atteignait des milliers de truongs. Mais son feuillage, jadis luxuriant, s'était fané. Le vieil arbre s'était alors mué en un esprit malfaisant des bois. Les habitants l'appelaient arbre démon. Il était d'une perversité, d'une ruse diabolique, prenant les formes les plus diverses, changeant sans cesse de repère pour mieux surprendre sa proie et la dévorer. On entendait sans cesse, dans la forêt, des cris et des plaintes déchirantes. L'Aqlon, une fois de plus, partit en guerre contre le mal. Des jours, des nuits durant, il se faufila cherchant d'arbre en arbre la cachette du démon. Ce fut au prix d'énormes difficultés qu'il parvint à le découvrir. Le combat dura 100 jours et 100 nuits. Des milliers d'arbres furent déracinés. D'innombrables rochers s'effondrèrent. Des nuages de poussière obscurcirent le ciel et la terre, sans que l'esprit maléfique s'avoua vaincu. Un jour, l'Aqlon eut une idée de génie. Utilisant gong, tam-tam et autres instruments de musique, il fit un tel bruit que le démon, pris de peur, s'enfuit vers le sud-ouest, où il vit sans doute encore. Le peuple, reconnaissant, bâtit à son bienfaiteur un château sur une haute montagne. Mais l'Aqlon n'y résidait guère, passant une partie de sa vie dans le palais sous-marin de sa mère. Pourtant, il avait recommandé au peuple de faire appel à lui si un danger quelconque le menaçait de nouveau. À cette époque, Délé, un chef du Nord, envahit le Sud. Il était accompagné de sa fille préférée, Aoko, d'une singulière beauté. Ébloui par la splendeur des sites, la riche variété de la faune et de la flore du Linnam, il se fit construire par ses troupes une citadelle dans le but de s'y installer. Ne pouvant supporter les lourdes corvées imposées par l'envahisseur, les habitants se tournèrent vers le sud pour invoquer l'Aqlon. Ô père, pourquoi ne venez-vous pas à notre secours? En un clin d'œil, l'Aqlon fut là. Il écouta les doléances de ses sujets, puis soudain, muet en un jeune homme d'une grande beauté, il se rendit à la citadelle de l'envahisseur. Ce dernier n'était pas là. À sa place, une jeune fille d'une extraordinaire beauté entourée de servantes et de soldats. C'était Aoko. Subjuguée par la majesté et la distinction du jeune prince, elle le supplia de l'emmener et l'Aqlon la conduisit à son château sur la montagne. Délé, ne trouvant plus sa fille à son retour, la fit rechercher par de nombreux soldats, mais jour après jour, le pouvoir de l'Aqlon faisait naître des milliers de bêtes sauvages qui barraient la route aux troupes ennemies et les attaquaient. Pris de panique, les envahisseurs s'enfuirent et leur chef dut finalement se replier au nord. Aoko vivait avec Laklong depuis un certain temps quand elle fut enceinte. Elle accoucha d'une poche pleine d'une centaine d'œufs qui, au bout de 7 jours, donnèrent chacun un garçon. Ces 100 garçons grandirent étrangement vite et devinrent de beaux hommes, surpassant tous ceux de leur âge en force physique et en intelligence. Des dizaines d'années durant, les époux vécurent dans la plus complète harmonie, mais Laklong avait toujours au cœur la nostalgie du palais marin. Un jour, il fit adieu à sa femme et à ses enfants, et se transformant en dragon, il s'envola vers la mer. Aoko et ses fils voulurent le suivre, mais ne pouvant voler, ils reprirent tristement le chemin de la montagne. Les jours passèrent pour eux sans nouvelles et pleins de tristesse. Bouleversée par le souvenir de celui qu'elle aimait, Aoko, debout sur le plus haut sommet, le visage tourné vers le sud, s'écria « Oh, Laklong, pourquoi ne rentrez-vous pas au foyer ?» Et Laklong aussitôt fut à ses côtés. Doucement, Aoko lui fit des reproches. « Je suis originaire des hautes montagnes et des grandes grottes. À vivre avec vous dans un parfait bonheur conjugal, j'ai mis au monde 100 garçons et pourtant cela ne vous a pas empêché de nous quitter, insensible à la douleur de votre femme et de vos enfants. » Laklong répondit « Je suis de la race des dragons. Vous êtes de celle des immortels. Nous ne pouvons vivre ensemble. Il faut nous séparer. Je vais partir avec 50 de nos enfants pour les régions marines. Vous, avec les 50 autres, irez au pays des monts et des forêts. Nous nous partagerons ce pays pour le gérer de notre mieux. Ceux des hautes régions, comme ceux des mers, céderont mutuellement. Jamais nous ne nous perdrons de vue. » Et ils se séparèrent. C'est ainsi que les 100 garçons devinrent les ancêtres des Viettes. Seul l'aîné demeura dans le Fengshou et fut proclamé roi sous le nom de Hung Vuong, roi Hung. Il divisa le pays en 15 provinces, chacune étant le berceau d'une tribu. 18 rois Hung se succédèrent sur le trône. L'histoire de Laklong et de Aoko est à l'origine des croyances populaires qui font descendre les Viettes de la race des dragons et des Tiennes, autrement dit des immortels.